Tout le basket est sur RTL l'équipe. Carrément basket, Luigi Collange.
Et bonjour à tous, bienvenue sur RTL l'équipe pour un nouveau numéro de Carrément Basket. Dallas et Miami aux portes de la finale NBA, le remake de la finale 2006, tout proche depuis le succès cette nuit du Heat face à Chicago. Et Miami qui mène la série 3 victoires à 1 n'est plus qu'à une victoire de la grande finale où Dallas a déjà un pied et 4 orteils. Les Mavericks emmenés par un phénoménal Dirk Nowitzki mènent 3 victoires à 1 face à Oklahoma City. Et peut-être enfin l'année des Texans. Au programme également de ce Carrément Basket, l'actualité de l'équipe de France. Vincent Collet a communiqué en fin de semaine dernière le groupe des 24 joueurs présélectionnés pour l'Euro 2011. Pas de Yohan Petro, Alexis Aginsa ou encore Yacouba Diawara. Mais la présence en revanche de Joakim Noah ou celle un peu plus surprenante de Rodrigue Bobois. Enfin on parlera Pro A en fin d'émission puisqu'on connaît l'affiche de la première demi-finale qui opposera Cholet à Gravelines. La proie ce sera juste après le petit plus du jour. Nando De Colo, le meneur de Valence, sera avec nous par téléphone. L'occasion de lui poser pas mal de questions. Prenez place, installez-vous confortablement. Carrément Basket, c'est jusqu'à 12h30 sur RTL l'équipe.
RTL l'équipe, Carrément Basket, Luigi Collange.
Allez messieurs, on rentre de plein pied dans ce Carrément Basket, évidemment, donc je vais accueillir nos invités, Georges Eddy, consultant RTL l'équipe. Bonjour Georges.
Bonjour Luigi.
Et Armel Lepescon de Mondial Basket.
Bonjour Luigi. Armel.
Voilà, l'équipe réduite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mais c'est normal, la finale NBA se rapproche à grands pas, donc on réduit également les effectifs. On garde le meilleur autour de cette table pour lancer.
Oh là là, c'est dur pour les autres.
Et c'est non, sympa pour nous.
Chivachi nous écoute, on leur passe évidemment un gros coucou à toute la bande habituelle hein, du Carrément Basket. Alors messieurs, je le disais, Dallas-Miami, c'était en 2006, mais c'est bientôt, peut-être dans fin de semaine, là, Dallas-Miami. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les deux équipes ont creusé l'écart dans leur finale de conférence respective. On va commencer avec l'actualité la plus chaude, c'était cette nuit hein, du côté de Miami. Miami qui a disposé de Chicago, qui a fait le trou. Alors là, je me tends tout de suite vers Georges, parce qu'avec Georges, il y a deux semaines, il me disait, oui, bon, c'est pour Miami, il n'y a pas de souci, Chicago, ils sont encore un peu juste cette année, Miami en finale de conférence où ils vont perdre face aux finalistes de la conférence Ouest. Et puis la semaine dernière, finalement, Georges me disait « Ah bah Chicago, finalement, elle est pas mal cette équipe, elle a une grosse première victoire. » Et là, finalement, bah, vous aviez peut-être raison il y a de ça deux semaines, Georges.
Oh, disons que victoire dans le match 1 de Chicago a été assez impressionnante. Ils ont dominé Miami et après le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi à reproduire le même effort et Miami a vraiment trouvé des solutions notamment pour gêner Derrick Rose. L'homme a tout fait en attaque qui a un pourcentage à moins de 35% maintenant pour la série. Donc ça fait 3 matchs de suite maintenant où c'est plutôt Miami qui trouve les bonnes solutions et surtout Chicago a du mal à mettre des points. En quatrième carton notamment et à la fin des possessions, l'équipe de Chicago est faible. Leur défense est toujours là, mais leur attaque n'est pas encore au rendez-vous et c'est maintenant ou jamais parce qu'ils jouent à la maison un match couperé, la prochaine rencontre. Et je pense qu'ils sont orgueilleux et ils voudraient au moins prolonger cette finale de conférence Est.
Et vous y croyez, Armel, vous encore là, une chance de Chicago dans cette série?
Ça peut toujours arriver, mais ce sera très difficile face à une super équipe de Miami qui, je trouve, s'est bien retrouvée sur cette finale de conférence. Elle joue pas uniquement avec ses trois amigos, elle joue avec un ensemble un peu plus cohérent. On a vu le retour de Udonis Haslem qui fait un grand bien à cette équipe, 9 rebonds par exemple cette nuit. On a vu aussi un joueur comme Mike Miller qui est revenu dans
enfin.
Alors si on n'avait pas Mike Miller avant, on avait James Jones pour mettre des shoots aussi. Donc là, le coach a pris l'option d'une rotation à 3 avec Chalmers, Miller et puis Udonis Haslem. Mais on a vu plus de cohérence dans le jeu, quelque chose de plus intéressant. Très fort en défense, des bons choix en attaque. Puis il y a un joueur qui fait un excellent play-off et surtout une super finale de conférence, c'est Chris Bosh, qui a vraiment, là il est à plus de 65% au tir. On a confiance en lui. Lui-même a retrouvé cette capacité offensive. En tous les cas, il domine largement le jeu intérieur de Chicago.
Ouais, il y a eu un petit réveil de Noah cette nuit, effectivement, notamment lors du match.
Oui, mais...
voilà, un sursaut, on va dire ça.
Attention aux stats par moment.
Voilà. Et c'est vrai que notamment, en tout cas, en termes de stats, on l'a vu...
14 rebonds, voilà. C'est bien.
Flamboyant, en tout cas, c'était lors du match précédent, lors de la victoire, lors du 2-1 pour Miami. Pour Chicago, genre, quelles sont les solutions en fait à l'heure actuelle pour réussir à s'imposer tout simplement et revenir dans cette série?
Bah, il faut retrouver déjà Rose et Noah dans le jeu offensif. Il y a deux matchs, Noah met un point. Plus mauvaise production de ses playoffs pour lui, pour le Français. J'ai dit que D-Rose a un pourcentage très faible. Il n'arrive plus à faire la différence. Parce qu'en fait, les deux équipes utilisent un peu la même défense en aide sur les stars. C'est-à-dire, dès que LeBron, Wade ou D-Rose a le ballon pour créer, il y a de l'aide en défense. Et ils sont obligés soit de forcer un peu, soit de faire la passe. Alors, l'avantage pour Miami, c'est que quand les stars font la passe, les autres joueurs sont plutôt utiles et ils mettent dedans. Et Chicago, c'est pas trop le cas. On a Deng et Boozer qui sont à leur niveau offensivement, mais pas Rose et Noah. Bon, Noah fait des passes depuis deux matchs, il a pris 14 rebonds, il fait des contres, mais dans la saison, il était à 12-13 points. Et là, il est à 6 points en moyenne. Donc, vous enlevez 7 points à une équipe qui a déjà du mal à scorer, et c'est un gros problème. Sans parler de D-Rose qui voit ses pourcentages et le nombre de points marqués nettement en baisse aussi.
Alors, j'ai fait le jeu d'Armel, le Bescon. Pour une fois, je suis allé me renseigner un peu au niveau stats. Je sais que c'est votre spécialité, Armel. Mais justement, concernant Derrick Rose, sur les trois derniers matchs, donc les trois défaites de Chicago face à Miami, il en est à 23 sur 69. C'est-à-dire, je crois même, c'est un peu moins de 30%, si je dis pas de bêtises.
Oui, oui, donc, c'est catastrophique.
C'est catastrophique pour un joueur qui avait été élu MVP. On a loué
MVP, oui.
les louanges. Il a fait suite à ce titre d'MVP. Il avait fait un match phénoménal lors de la demi-finale de conférence face à Atlanta. On s'est dit, ça y est, il se sent pousser des ailes. C'est parti. Derrick Rose va être phénoménal. Et là, c'est vrai que ça coince un petit peu face au Heat.
Oui, et en plus, c'était un joueur décisif tout au long de la saison régulière sur les quatrièmes quart-temps. La force de Chicago, c'était les quatrièmes quart-temps cette année. Et là, effectivement, on a vu sur les trois défaites qui viennent de suivre, trois défaites consécutives, c'est la première fois que ça leur arrive en plus, eh bien, leurs quatrièmes quart-temps sont catastrophiques. Hein. Pour des tas de raisons, 25% par exemple dans le match numéro 2 au shoot. Dans le match numéro 3, on est à 38% et ces nuits sont tombées à 30% de nouveau. Donc, ils ne peuvent pas gagner des matchs de cette manière avec un pourcentage aussi faible, ce qu'on a décrit tout à l'heure. Deuxième chose, autre facteur, effectivement, là, c'est le concernant Derrick Rose. Il a été pris, par exemple, en défense à un moment donné, cette nuit, par James. Eh bien là, c'est 0 point, 0 sur 5 sur cette tentative, par exemple, plus un ballon perdu à ce moment-là, à chaque fois que James a été en défense sur lui. Il a eu beaucoup de mal, mais effectivement, c'est James qui l'a pris sur un moment crucial, cette nuit aussi, sur ce match 4. La difficulté, effectivement, c'est de le retrouver, de le mettre en position, mais on sent un attentisme aussi du côté de ses partenaires, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas venu par exemple à 85 partout, il a deux fois la balle de match sur le premier tir, la première chance, première tentative, effectivement. Ça ne bouge pas trop, mais surtout sur la suivante, la dernière, il a vraiment la balle. Il attend effectivement qu'on vienne poser un écran pour aller effectivement ensuite sur le jeu intérieur. Et là, il attend toujours l'écran. Il était obligé de prendre son tir et effectivement, c'était assez... c'était perdu d'avance.
Un petit airball au passage.
Est-ce que je peux enchaîner là-dessus?
Oui,
en fait, on a maintenant... c'est exactement le contraire de ce qui est arrivé au début des playoffs où les équipes jeunes et athlétiques ont dominé les vieux briscards trop expérimentés, presque vieillissante. Alors maintenant, par contre, on est en finale de conférence et l'expérience des joueurs comme James, qui a été en finale déjà NBA contre San Antonio, Wade qui a gagné le titre, Haslem son retour a changé complètement cette finale de conférence parce que il apporte exactement ce qui manquait dans le match 1, du rebond, un peu de méchanceté dans la peinture, des dunk rageurs, des shoots à 4-5 mètres. Donc lui, avec un Bosch on va dire presque stratosphérique, son clé, mais on ne parle pas assez de ce que fait LeBron James. Parce qu'en fait, il se met à toutes les sauces. Il se met en complémentarité des autres en fonction des besoins du jour. Et surtout, il est devenu archi-décisif dans le money time, dans les dernières minutes, en mettant des paniers énormes. Chose qui ni lui ni Wade n'arrivaient à faire pendant la saison régulière. Ils ont été critiqués pour ça. Donc, en fait, l'expérience de Miami, et aussi, on va parler plus tard, de Dallas, commence à vraiment se faire sentir dans ces fins de match, parce que chaque fois, ça joue en prolongation, sur une possession, sur un shoot décisif dans les 5-6 dernières secondes. On va en parler tout à l'heure. On a vu Durant et Westbrook et Oklahoma City merder, entre guillemets, dans cette situation. Et là, c'est pareil pour Rose et Chicago.
Et Chicago qui s'en sort pas. Vous parliez, ça c'est très important, c'est vrai que LeBron James, cette saison, il y a eu plein d'explications en tout cas à cela, notamment ouais, son transfert, hein, on le sait, qu'en tout cas son départ plutôt de Cleveland vers Miami, il est complètement passé un petit peu sous silence. Avant, voilà, c'était le joueur de la ligue, le MVP, on faisait des pubs autour de lui, il y en avait que pour LeBron James cette année, un peu moins le cas forcément à cause de ça. Et puis peut-être que ça lui va bien finalement, parce qu'il arrive dans un rôle un petit peu différent. Ça reste le franchise player de Miami finalement. Et bien là, c'est comme cette nuit, hein, 36 points, 6 passes, 6 rebonds, et puis voilà, il nous fait du James, ça continue et ça marche.
Ouais, alors non, justement, ce n'est pas le franchise player de Miami, si on considère que c'est Wade.
Oui,
voilà.
C'est ce que je disais.
Oui, c'est ce qu'il a dit.
Oui, c'est Wade. Voilà l'histoire. Et effectivement, il a pris peut-être un peu moins de responsabilités dans la saison, encore que... Mais bon, on était tellement focalisé aussi sur ce trio, sur ce Big Three avec Bosch, faut pas l'oublier non plus. Effectivement, on a eu tendance, pour différentes raisons, à ramener le jeu uniquement à ces trois joueurs. Et effectivement, d'une manière, ça nous donnait aussi raison, nous autres observateurs du jeu, parce que quand on voyait cette équipe jouer, eh bien, c'était des situations de 1 contre 1. Je vais pas vous refaire ce qu'on dit, par exemple, Phil Jackson, quand il a dit, cette équipe n'est pas intéressante d'avoir joué, parce qu'effectivement, tout se résume à du 1 contre 1. Mais c'est moins vrai sur le play-off pour des tas de raisons. Je vous dis, l'arrivée, moi, entre la demi-finale que j'ai pu voir contre Boston et puis, par exemple, le retour, justement, d'un garçon comme Udonis Haslem change beaucoup de choses aussi dans cette équipe, parce que, effectivement, il a la capacité à prendre du rebond. Ça donne forcément des munitions. Mais je suis d'accord aussi quand on dit, effectivement, que James est un joueur intelligent. Quand vous regardez son match 3, il est meilleur passeur, par exemple, de cette équipe avec 10 passes décisives sur ce match. C'est-à-dire qu'il est capable de, effectivement, squeezer un peu du scoring pour passer à autre chose. Ça, c'est une intelligence de jeu, c'est une expérience. Et ce sont des choses qu'il n'avait pas forcément quand il était à Cleveland, parce que les stars autour de lui, eh bien, c'était des demi-stars avec, faut-il rappeler les noms, Varejo ou bien Williams. Donc forcément, ça n'allait pas très très loin. Donc... Oui, cette équipe, elle est forcément conçue d'une manière différente. Elle est plus intéressante à voir jouer à partir du moment où les autres joueurs aussi sont impliqués dans les systèmes.
Mais attention, James peut défendre sur Rose ou Boozer. Vous voyez la polyvalence du joueur, parce qu'on parle pas de sa défense. Il a contré 3 fois Boozer dans un duel
il est venu contrer 2 matchs.
Il vient défendre sur Rose, qui est le meneur. Voilà. C'est quand même fantastique, un joueur comme ça.
Et très rapidement, justement, messieurs, Armel en parlait avant de retrouver le tennis dans quelques instants avec Clément en direct de Roland-Garros. Vous parliez des joueurs. Est-ce que aussi au niveau du banc, on pêche pas du côté de Chicago? On a vu un très bon banc, en tout cas lors du match numéro 1. Vous parliez des apports de Mike Miller, de joueurs comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit souci, voilà, du niveau de Chicago en termes, voilà, d'effectifs?
À mon avis, Taj Gibson ne joue pas assez, parce qu'il apporterait plus de dynamisme,
de peps,
et c'est une erreur du coach. Mais de toute manière, Korver est à côté de tout au niveau de l'adresse,
et
il manque un shooter pour libérer un peu des espaces pour Derrick Rose. Donc c'est vrai que le banc de Chicago ne fait pas assez.
Ouais. C'était leur force en plus.
C'était leur force, oui.
Et donc on est un peu déçus. Hassing n'a pas pu jouer quasiment cette nuit. Il est rentré en jeu et puis il est sorti 2 minutes après. Donc alors qu'il était vraiment impliqué aussi dans le jeu. Mais Korver surtout passe totalement à côté. Il fallait s'y attendre. C'était un peu la clé. Est-ce qu'il est capable vraiment d'être shooter à 3 points ou pas sur des séries fortes comme ça? Effectivement, il passe à côté.
La petite déception. Quel Korver pour Chicago. Chicago, pour l'instant, on le disait, donc mené 3-1 face à Miami, qui voit la finale NBA s'échapper. On va continuer parler de ces finales NBA dans quelques instants.
Sur RTL L'Équipe, carrément basket jusqu'à midi et demi.
Allez, la terre battue parisienne, on file sur les parquets outre-Atlantique pour continuer à parler de ces finales NBA, finales de conférence. Évidemment, on a parlé de la finale conférence Suez. Juste un petit mot pour terminer justement avec cette série. Bon, c'est un peu de l'extra sportif. Joakim Noah qui a eu des petits soucis là dernièrement. Voilà, ça mérite qu'on en parle très rapidement. Après Kobe Bryant, c'est le deuxième un petit peu à se faire réprimander par la NBA, à se faire taper sur les doigts pour des insultes homophobes, en fait une provocation verbale d'un spectateur. Il aurait répondu, voilà, dans son franc-parler. Voilà. Après, voilà, l'acceptisation de la NBA fait qu'évidemment, ça prend tout de suite une ampleur un peu particulière. Mais bon, voilà, vous en pensez quoi de tout ça?
Non, mais ils ont raison de sanctionner.
Oui, ils ont raison de sanctionner.
Ça, c'est la première chose.
Même Noah l'a dit.
Même voilà, d'ailleurs, il s'est excusé. Alors, effectivement, il est pris dans le truc. Il faut savoir, effectivement, que les joueurs ne peuvent pas se permettre ce genre de choses parce que, de toute façon, il y a des caméras partout, il y a des micros partout. Aux États-Unis, c'est que ça. Donc, même nous, d'ailleurs, faire attention à ce que l'on dit. Et voilà, donc, mais il s'est excusé, il a pris 50 000. Kobe Bryant avait pris 100 000. Parce qu'effectivement, c'est peut-être c'est proportionnel au salaire.
Non, non, c'est parce que c'était vis-à-vis de l'arbitre, la NBA.
Ouais,
expliqué.
Voilà, c'est la NBA.
Parce que c'était vis-à-vis d'un arbitre, donc c'est plus grave. C'est un acteur du jeu. Et il paraît aussi que le fan à Miami a été exécrable dans ses propos vis-à-vis de Noah. Et là, je suis d'accord. Et il a dit, j'ai pas le droit de dire certains mots et on est tous au même enseigne. Par contre, la NBA doit mieux policer les fans qui sont derrière le banc ou même dans une salle, qui n'ont pas le droit non plus d'insulter la mère de Joakim Noah juste parce qu'ils ont payé le prix d'une place. Il faut quand même que le respect de l'être humain aille dans les deux sens.
Ouais, avec donc c'est.
Mais
c'est
là, pour... ça me semble difficile, Georges, quand même, parce que. Effectivement, donc on a déjà fait pour protéger les joueurs devant le banc lorsqu'ils sont sur les time-out, parce qu'à un moment donné, on a vu des joueurs se faire agresser, même sur le banc, par des spectateurs. Et c'est vrai que c'est difficile de mettre un policier derrière chaque fan, et voilà.
Non, donc, mais derrière chaque banc, oui. Et d'ailleurs, j'ai bien lu par rapport à ça, il y a certaines salles où c'est très bien fait, et quand un fan est dénoncé, par exemple, par un autre fan qui trouve qu'il dépasse les limites, il peut être exclu de la salle. C'est pas parce que vous avez acheté une place, même très chère, que vous avez le droit d'insulter, de dire n'importe quoi à n'importe qui, vous voyez?
Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dommage en tout cas pour d'une le spectacle et l'ambiance qui peut régner de temps en temps, parce que ces provocations là, ils y répondent les joueurs, et on voit ce qui s'est passé donc du côté de la salle de Miami, hein, cette provocation qu'elle a répondu Joakim Noah, tout est rentré dans l'ordre, voilà, il s'est excusé, il va payer son amende.
C'est bon, franchement un film, quoi, je veux dire, sur une saison, voilà, vous imaginez, de 82 matchs, d'un ensemble de matchs de play-off monstrueux et tout. On est bien loin de ce qui se passe en Europe, je peux vous le dire.
Ouais, et notamment des dans les salles grecques, par exemple.
Oui,
ouais,
puis
même, à Belgrade,
globalement,
ou Turquie,
n'importe où, quoi. Je veux dire, là-bas, vous y allez avec vos enfants, en famille, et vous y allez relax, quoi, voir un match de basket. Hein. Ça, c'est quand même, il faut le mentionner. Vous êtes bien assis et tout, c'est agréable et tout. On est dans une salle de spectacle quand on va là-bas aux États-Unis. Et donc, oui, c'est arrivé une ou deux fois comme ça, mais c'est pas méchant.
Allez, fin du chapitre. Joakim Noah, vous parliez peut-être d'un policier derrière chaque spectateur. Il va falloir des policiers autour de Dirk Nowitzki du côté de la Conférence Ouest. Il va falloir qu'ils sortent quelque chose, là, nos amis d'Oklahoma City. Dallas qui mène 3-1, hein, le même score que Miami face à Chicago. Dallas, hein, donc face à Oklahoma City. Avec une nouvelle fois, on avait vanté les mérites, hein, de Dirk Nowitzki qui avait été énorme lors de la première rencontre. Victoire de Dallas. Et là, lors du match numéro 4, pareil, il a ressorti, eh bien, allez, le pistolet. Il a flingué à tout va dans le dernier quart-temps. Il a mis 40 points au total, c'est énorme ce que nous fait Dirk Nowitzki. Vraiment, là, moi je suis époustouflé par joueur en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez, Georges, mais.
Oh, totalement. Il joue le meilleur basket de sa vie parce qu'il a compris que c'est sa dernière chance. Pour lui, comme pour Jason Kidd qui a 38 ans, qui va prendre sa retraite probablement. Donc tous ces joueurs jouent comme s'ils étaient dans une mission. Et c'est en fait toute leur carrière et le prestige de leur histoire de joueur qui se se joue parce que si vous ajoutez une bague de champion à des joueurs comme Nowitzki ou Kidd, ils passent dans un panthéon supérieur par rapport à l'histoire de la NBA. Et bon, j'ai revu encore la fin du match 4, absolument éblouissant parce qu'ils sortent des shoots dans n'importe quelle position pour faire revenir les Mavs. Oklahoma City avait la victoire en main. Ils sont à plus 12 à 4 minutes de la fin. Ils ont laissé tomber le bébé. C'est bien dommage pour eux. Mais comme pour le match 4 gagné en prolongation par Miami hier soir, les deux choses sont tout à fait similaires.
Ouais, il y a une certaine ressemblance effectivement entre ces deux séries. Et sur le dernier match, je vous disais justement, Georges, les prolongations qui ont été remportées par Miami face à Chicago la nuit dernière. Donc Dallas qui s'est imposé après avoir eu un retard de 15 points à 5 minutes de la fin, 12 points disait Georges à 4 minutes de la fin. En tout cas, ils étaient un petit peu en dedans. On va parler d'Oklahoma après, hein. Peut-être aussi une mauvaise gestion de fin de match une nouvelle fois. On va reparler de Westbrook parce qu'il y a des choses à dire. Mais c'est vrai que Dallas, en tout cas,
il n'y a pas que lui.
Oui, il n'y a pas que lui. Mais c'est surtout le joueur en tout cas qui.
Dire que Durant, quand il prend la balle et il shoot de 10 mètres, il restait presque 7 secondes, c'est hyper mal géré à la fois par le staff
système,
et les joueurs.
Ça. Oui, voilà, ça c'est un mauvais système. C'est pas. Durant, lui, il prend le ballon, on lui le donne, voilà. Mais si le système est annoncé différemment,
tout
il le
fait.
Prend ailleurs, voilà. Et c'est différent, effectivement. Mais je suis d'accord, effectivement, c'est un mauvais shoot, mais le système est mal annoncé.
Alors. Et il a même donné, carrément, c'est ça que j'adore chez Durant, la star le plus humble du moment. Il a donné ses excuses à son public. Il a dit, c'est ma faute, j'ai eu plein de shoots quasi décisifs en fin de temps réglementaire, j'aurais dû les mettre. C'est vrai, il a eu des tirs ouverts, Westbrook aussi, et d'autres. Et il aurait suffi de mettre un de ses shoots très ouverts de plus.
Pour gagner le match.
Et il n'y avait aucun problème. Ils gagnaient, ils égalisaient. Et la différence entre être mené 3-1 et être à 2-2, c'est tout un océan. Hein.
On va rester du coup sur cette équipe d'Oklahoma. Moi, je veux insister sur Westbrook. Je suis désolé, Georges. Mais juste, je suis allé chercher. J'ai trouvé une stat sur un des nombreux sites de basket qui existent en France qui nous dit que le meneur shoot à 23,3% dans le dernier quart-temps. Depuis, en tout cas, le début des playoffs, hein, carrément. Donc, c'est quand même assez faible comme pourcentage. Il a fait 0 sur 4, donc c'était il y a deux jours, hein, face à Dallas. 7 sur 30 au total dans le dernier quart-temps. Et justement, la dernière fois où, en tout cas, Oklahoma s'est imposé dans cette série, c'est la fois où Westbrook n'a pas joué dans le dernier quart-temps.
Mais il n'y a pas que lui.
Oui, Durant est à 2 sur 14 dans des situations de shoot décisive en fin de match aussi.
Voilà, c'est le match numéro 2 à Dallas. C'est le match où il gagne effectivement 106 à 100. Et c'est le match où, dans le quatrième quart-temps, le coach décide effectivement, mis à part Durant, de changer tout son 5. Voilà, c'est-à-dire que Westbrook n'est plus là, Perkins n'est plus là, on fait jouer Maynard à la main, Harden est en jeu alors qu'il est on fire aussi. Voilà, il a changé tout son 5, un petit peu comme avait fait, tu te souviens, George, Doc Rivers l'an passé en finale NBA, lorsqu'il fait jouer Ned Robinson, Big Baby, enfin tous ses remplaçants sur le match crucial, important pour faire le break, à 3-1 à Boston également. Donc c'était assez intéressant de voir ce match, comment ils l'ont géré à Dallas pour effectivement égaliser dans la série, quoi. Et donc la question lui a été reposée ensuite à coach Brooks derrière pour savoir effectivement pourquoi il changeait pas son 5. Alors il a eu une excuse il y a 3 jours en disant oui, mais c'est un 5 jeune. Si on a une instabilité auprès d'un line-up comme ça, eh bien, effectivement, les joueurs, après, quand je les rappelle pour rentrer et tout, ils ne sont pas à l'aise, ils sont en manque de confiance, donc il faut rester stable et tout. Mais les reporters lui ont bien dit, effectivement, qu'il avait gagné ce match 2 contre Dallas en changeant, justement, sa stratégie sur le quatrième quart-temps avec d'autres joueurs.
Oui, George. Oui, ça peut se discuter. On est bien d'accord que Westbrook, comme Durant, a des problèmes dans les fins de match. Le pourcentage est... en fait baisser parce que la défense adverse s'adapte parfaitement à ces situations. Et le joueur manquant dans le match 4 à la fin, c'était Harden, parce qu'il avait fait 7 points et 7 passes, et ça donnait un troisième extérieur dangereux sur le terrain. Donc il fallait absolument qu'il soit là, et il fait sa sixième faute à 5 minutes de la fin. Donc c'est 5 dernières minutes où il partait avec 15 points d'avance, voilà, qui sont hyper mal gérés. Mais en même temps, si vous revoyez les shoots que faisait Nowitzki, un 3 points en première intention avec défense devant le visage, deux shoots en déséquilibre sur un pied en arrière, et une fois il était obligé de mouliner ses bras pour même avoir la possibilité de jeter le ballon vers le cercle, et ça va dedans. Donc s'il rate un de ses tirs miraculeux, là aussi Oklahoma City passe. Donc vraiment ce genre de défaite qui à la maison en plus devant un public génial qui doit rester tellement à travers la gorge de Westbrook et Durant et les coachs qui ont à mon avis très mal géré la dernière possession en temps réglementaire. Donc tout ça, la question c'est est-ce qu'ils vont être assez dépités et revanchards pour aller arracher une victoire à Dallas ce soir, c'est la question.
Mais ça va être compliqué hein, d'aller
chercher. C'est pas impossible, ils ont gagné une fois déjà
vrai,
là-bas,
c'est
pas impossible.
En tout cas si Nowitzki nous sort en tout cas le terme de performance et ses shoots improbables, vous l'avez dit, genre il y a vraiment il y a 2-3 shoots dans les dernières minutes qui sont
irréels
vraiment.
Et face à un super défenseur, parce que Collison, on peut pas dire qu'il défend pas, il défend très très bien, mais ouais. Nowitzki est passé dans un niveau stratosphérique en attaque.
Et justement Armel et Georges le disaient, est-ce que justement c'est pas l'année ou jamais, c'est une mission, ils sont en mission ces joueurs de Dallas, et avec tous les critiques qu'ils ont eu, on s'est dit bon, allez, Dallas arrive en playoff, là ils vont encore s'arrêter, aller peut-être au premier tour, peut-être demi-finale de conférence, voilà, ils ont un statut de chat noir, on les oublie, et puis là ils arrivent et peut-être ils ont enfin les voyants verts.
C'était mentalement que cette équipe était très critiquée ces dernières années, même quand elle était à plus de 60 victoires, je vous rappelle, en cours de saison en 2007 et 2008, ça passait pas après derrière, donc effectivement mentalement elle était très très friable. Cette année, c'est l'année ou jamais, pour des tas de raisons, l'équipe n'a jamais aussi bien joué. Ils ont un vrai pivot avec Chandler en défense, monstrueux. Et ils ont la maturité avec Jason Kidd et puis Nowitzki. Ça, c'est extraordinaire
et
aussi.
Et 5 victoires de suite à l'extérieur, en
voilà,
plus.
Voilà. Et puis, en plus, c'est une équipe qui a vu, effectivement, tout le monde partir à l'ouest et maintenant à l'est. C'est pas forcément Miami qu'on attendait non plus en face, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, les circonstances n'ont jamais été aussi favorables pour l'équipe texane, je pense.
En tout cas, on espère pour eux. Enfin, on espère aussi qu'Oklahoma va essayer d'un petit peu de mettre encore un petit peu de peps dans cette finale de conférence ouest pour nous donner du spectacle encore et des matchs de folie comme on les vit depuis le début de ces playoffs. Vraiment passionnant, les playoffs 2010-2011. Évidemment que l'on suit tous les mercredis dans Carrément Basket. Mais si on se retrouve dans quelques instants pour parler de plein de choses, l'actualité de la NBA encore, la Pro A, Nando De Colo, l'équipe de France. Bref, il y a plein de choses au menu.
Tout le basket est sur RTL l'équipe. Carrément Basket, Luigi Collant.
Allez, toujours en compagnie d'Armel Lebescon de Mondial Basket, de Georges Eddy, consultant RTL l'équipe, pour continuer à décortiquer l'actualité du basket et de la NBA. On a parlé de la finale qui se dessine entre Miami et Dallas, remake, on le disait, de l'édition 2006. On va parler un petit peu des à côté maintenant de la NBA avec plusieurs petites infos. Oui, alors Armel voulait dire quelque chose.
Je voulais revenir avec une petite stat pour ne pas décevoir les fans d'Oklahoma ou de Chicago. Ils sont quand même très nombreux. En plus, ce sont des équipes qui nous ont portés en haleine tout au long de la saison. C'était plutôt cool. Donc, c'est pas fini à 3-1. On peut toujours venir. Mais il n'y a que deux équipes qui l'ont fait depuis l'existence des playoffs.
En demi-finale en finale de conférence ou
sur l'ensemble des playoffs. D'un déficit de 3-1, est-ce qu'on peut revenir dans la série? Il y a deux équipes qui l'ont fait. Boston en 1968. Vous n'étiez pas né. Donc, Bill Russell contre Chamberlain. Eh bien, Boston avait gagné la série 4-3 sans avoir l'avantage du terrain. Et puis, plus récemment, effectivement, c'est Houston en 1995 qui avait réussi upset sur upset. Et ils avaient éliminé Phoenix 4-3 également après avoir été menés pourtant 3-1. Et ensuite, ils avaient gagné le titre. Les deux équipes, d'ailleurs, avaient gagné le titre.
Donc, bonne nouvelle peut-être.
On peut toujours espérer.
Ça n'arrive pas tous les jours non plus.
Non, vous voyez, deux équipes.
Voilà,
c'est léger.
On peut croire au miracle. Hein. Il y a eu des petits miracles. Il y en a eu notamment, alors je change complètement ce sport, mais en rugby, hier, on parlait de Sébastien Chabal. Il fallait un miracle pour que sa suspension soit rendue. Il y a eu un miracle. Donc, comme quoi, de temps en temps, ça existe dans le sport, les miracles. Messieurs, miracle ou pas du côté de Los Angeles, on parle de la succession à présent de Phil Jackson. Ouais. On annonce, en tout cas, ce sont les médias américains, la Mike possible Brown. Arrivée, ça te précise de plus en plus, de Mike Brown, l'ancien coach de Cleveland, pour jouer du côté des Lakers. Alors, je ne sais pas si vous avez des dernières infos concernant ça.
Il était libre. Voilà.
Il était consultant sur ESPN tout au long de la saison. On rappelle qu'il était à Cleveland l'année dernière. Et puis après, les blowouts successifs, eh bien, effectivement, on l'avait remercié. Alors, ce qui est assez drôle dans cette histoire, sur ce que j'ai appris, c'est que Mike Brown, effectivement, pourrait être signé, mais sûrement pas un salaire comme il le souhaitait. Et pas un salaire comme on peut entrevoir lorsqu'on est dans une grosse franchise comme les Lakers ou à Boston ou à Miami, par exemple. Et bien donc, ce serait tout simplement parce que Phil Jackson a pris l'essentiel des contrats sur les dernières années. Et donc, le coaching, effectivement, cette année sera revu à la baisse au niveau du salaire. Alors, il y a également Rick Adelman qui est en très bonne position. Mais ici, on l'avait annoncé avec George et tout, que Brian Shaw tenait la corde. Moi, je ne comprends pas très bien pourquoi, effectivement, on va chercher un coach à l'extérieur, sachant que, surtout si on veut rester sur le triangle offense, par exemple.
Voilà. Ce sera pas du tout le même type de jeu, en tout cas, avec un coach comme...
Je pense pas, non.
Mike Brown, a priori, bon choix ou pas, Mike Brown, possible
Pour moi, c'est un mauvais choix, parce que si c'était un bon coach de défense dans l'école des Spurs, où il a été formé par Popovich, en attaque, il a montré ses limites dans chaque playoff. Il s'était donné la balle à LeBron, il se débrouille, et il n'y avait pas d'imagination, il n'y avait pas de créativité sur le plan offensif. Il a même pris des conseils auprès d'Ettore Messina pour essayer d'améliorer le problème, ce qui est plutôt intelligent de sa part. Mais disons que quitter l'attaque en triangle fabriquée à merveille par Tex Winter, Phil Jackson, et ils auraient pu continuer avec Brian Shaw, qui n'aurait pas été très cher parce qu'il commence dans le métier. Donc lui aussi, c'est une solution à prix cassé. Là, ils vont chercher une solution à prix cassé avec un coach que je respecte, mais qui a quand même montré ses limites avec LeBron et Cleveland.
Ouais, notamment, on lui avait reproché une mauvaise gestion, en tout cas justement de la personnalité de LeBron James. C'était pas simple tous les jours pour lui. Là, avec un Kobe Bryant, est-ce que ça...
Je comprends pas. Voilà. Je comprends vraiment pas.
Ouais, choix, en tout cas, voilà, c'est pas fait encore, mais ce serait en tout cas très très proche de se conclure cette histoire, hein, cette affaire, et donc Mike Brown peut-être nouveau coach des Lakers de Los Angeles.
Et Brian Shaw se rapproche de Golden State, où Jerry West a pris des pouvoirs
forcément.
Comme consultant, et ça, c'est intéressant parce que c'est une sorte de transfert de connaissances des Lakers vers les Warriors.
Et les Warriors, peut-être future équipe de la Conférence Ouest en 2020.
Intéressante
avec quand même un potentiel en plus avec les j'allais
Curry, Monty Ellis,
voilà, je pensais à ces gens-là, puis David Lee dans la raquette aussi,
c'est une équipe qui a un peu de talent quand même,
il y a du talent, voilà, des choses à vendre. On suivra évidemment la suite de Golden State. L'actualité principale de ce matin, en tout cas concernant la NBA, messieurs, c'est la plainte des syndicats des joueurs. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est tombé la nuit dernière.
Oui.
Voilà, concernant le lockout, le syndicat...
C'est de la stratégie de négociation, voilà. Les deux côtés. Ça va être long, ça va être compliqué. Ça ennuie, à mon avis, les téléspectateurs et les auditeurs. Parce
Surtout lorsqu'on est dans un play-off comme actuellement, qui est extraordinaire.
Oui, oui. C'est ça. Donc, c'est un peu dommage d'occulter justement ces playoffs fantastiques avec ces histoires de gros sous entre des milliardaires propriétaires et des millionnaires joueurs qui, même si ils redonnaient 20 ou 30 ou 40% de leur salaire, seraient archi surpayés. Donc, pour le commun des mortels, c'est un peu scandaleux, cette affaire-là.
Et tout ça pour dire que les discussions forcément vont continuer. La prochaine discussion, ce sera... si je dis pas de bêtises, fin juin ou début fin juin, si je dis pas de bêtises, alors là j'ai un gros doute d'un coup, c'est après, en tout cas fin juin, voilà, a priori, en tout cas,
oui, parce que la date,
moi-même je m'y perds, ouais,
le début du lockout, autrement s'il se prononce pour un lockout, c'est le 1er juillet, donc voilà. Effectivement il peut avoir peut-être une réunion entre eux encore un petit peu avant, mais bon, de toute façon on sait très bien qu'on se dirige tout droit vers un lockout,
voilà,
mais la date vraiment limite, c'est le début de la saison, c'est quand on commence à perdre des matchs, et c'est-à-dire les joueurs perdent leur salaire parce qu'ils ne sont pas payés, et les clubs ne font pas de recettes guichets. Donc, c'est là où ça commence à vraiment faire mal. Avant, c'est des positionnements stratégiques d'avocats. Mais quand on commence à perdre du fric, là, tout le monde négocie avec beaucoup plus de sérieux.
Et nettement plus rapidement aussi.
Nettement plus rapidement. Alors, on ne sait pas si ça va être très rapide, hein, parce que c'est vrai que ça ne s'annonce pas très bien. En tout cas, pour l'instant, les discussions entre les deux parties, chacun campe sur sa position. On surveillera ça de plus près, mais évidemment, on ne va pas passer un quart d'heure dessus, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, un petit peu chiant.
Nébuleux.
On peut nébuleux. Dire, nébuleux.
On aura le temps d'en parler par la suite.
Par la suite, si vraiment, voilà, ça s'annonce.
Si vous voulez, pour faire court, j'ai écrit un article sur FIBA.com pour donner des solutions à la fois aux propriétaires et aux joueurs pour arriver rapidement à une bonne négociation. Comme on dit, il vaut mieux une bonne négociation qu'un mauvais procès ou un mauvais lockout là. Et y a des éléments. Par exemple, peut-être donner plus d'argent dans la caisse de retraite des joueurs. Il faut trouver des moyens de permettre aux joueurs de sauver la face. Donc, si on mettait plus d'argent dans la caisse de retraite, ça serait utilisé plus tard quand les joueurs en ont vraiment besoin. Donc, il faut trouver des solutions intelligentes. L'autre truc, interdire de laisser les joueurs aller dans les casinos et perdre toute leur fortune. Il faut envoyer ces joueurs dans une école de commerce plutôt qu'à Las Vegas. Parce qu'il y a deux tiers des joueurs apparemment qui perdent pratiquement toute leur fortune dans les quelques années après leur carrière.
Pourtant,
énorme.
Tu sais comme moi, pourtant, Georges, que tous les ans, en début de saison, une fois que la saison est juste lancée et tout, au mois de novembre, ils ont des réunions, ils ont des meetings qui n'en finissent pas, justement, avec des gens qui viennent leur expliquer comment ils doivent aller placer leur argent et tout.
Faire attention aux groupies, faire attention à la drogue.
Sincèrement, on leur explique, on arrête pas de leur
mais faut aller plus loin encore. Voilà.
Ou suivre le modèle LeBron James, qui au-delà de son, en tout cas du joueur NBA talentueux, qui est un vrai gestionnaire incroyable, quoi. En tout cas,
ou regardez Magic Johnson, qui est devenu, il a gagné beaucoup plus d'argent après le basket qu'avant, parce qu'il a bien investi, c'est un vrai homme d'affaires. Et c'est un modèle. Il doit être un modèle pour les joueurs, plutôt que Scottie Pippen ou Antoine Walker, qui ont gagné plus de 120 millions de dollars de salaire et ils ont tout jeté par terre.
Suivre tout Roland-Garros, écoutez RTL l'équipe.
Allez messieurs, avant d'accueillir notre invité Nando De Colo par téléphone d'ici quelques minutes, on va se pencher sur l'actualité de l'équipe de France. Justement, c'était en fin de semaine dernière, Vincent Collet qui a annoncé, voilà, c'est pas encore la liste définitive, il y a encore pas mal de joueurs, mais les 24 présélectionnés en vue de l'Euro 2011, il y a des petites surprises, pas trop finalement. Il y a l'absence de Petro, d'Ingensa qui était là dans nos studios de toute manière.
Bah, il nous l'avait dit. Voilà, c'était un scoop.
Il comptait pas du tout y aller de toute manière, Alexis Ingensa. L'absence également d'Yacouba Diawara qui est assez déçu. On a pu lire une interview cette semaine chez nos confrères de je ne sais plus quel journal, mais en tout cas il était beaucoup, il était triste tout simplement Diawara de pas faire partie de cette présélection. La petite surprise, c'est la présence de Bobois, puisqu'on sait que Mark Cuban, le propriétaire de Dallas ne comptait pas le libérer, il ne compte pas le libérer, mais Vincent Collet dit on sait jamais s'il y a un lockout justement, eh bien on a l'assurance d'avoir Rodrigue avec nous. Georges.
Oui. D'ailleurs, la bonne nouvelle aussi qu'on a entendue de la bouche du président de la Fédé, c'est qu'ils sont en train de trouver une solution pour assurer les joueurs, même en cas de lockout, pour le championnat d'Europe. Super. Bobois, il faut voir, parce qu'il est fragile du pied, hein, et là, il est encore blessé, il joue pas.
Il jouera pas.
Beaucoup de facteurs. Oui, et de toute manière, il faut qu'il se soigne et qu'il se renforce physiquement plutôt que de prendre des risques. Donc ça, c'est à lui de gérer. Parce que son propriétaire ne peut pas l'interdire. Si lui veut y aller, il y va, hein, parce que ce sont les lois de l'NBA et c'est un agrément fait avec la FIBA. Mais on peut influencer un joueur en disant si tu m'écoutes pas, tu joueras plus, le coach va te mettre au bout du banc et basta. Pour revenir sur cette présélection, il y en a un qui est très déçu, on l'a eu dans Canal NBA lundi soir, c'est Joanne Petro. On ne l'a même pas contacté pendant l'année. Ils sont allés voir tous les autres joueurs français de la NBA, mais pas lui. Et il a jamais dit qu'il voulait pas y aller. Il avait même très envie de faire partie de l'aventure. Donc là, je trouve que c'est pas normal. On doit faire jouer aussi la concurrence. Diawara a rendu service ces dernières années. Il a quand même le droit d'aller se battre dans les entraînements pour gagner sa place, non? Bon, là, j'ai l'impression, et même si j'ai énormément de respect et d'amitié de longue date pour Vincent Collet, j'ai un peu l'impression que c'est une sélection faite d'avance on va dire par un peu le clan des joueurs expérimentés.
Non,
c'est pas difficile de trouver.
Pas
que Parker, hein. Oui. Parker, à mon avis, a beaucoup d'influence, énormément d'influence. Mais bon, au niveau de Collet, le staff et les autres joueurs cadres, il y a une sorte d'emprise où les décisions sont faites d'avance, j'ai l'impression. Et attention, Noah, il a été deux fois blessé les deux dernières saisons, il a raté beaucoup de matchs, il peut se tordre la cheville. Et où est-ce qu'on va trouver des centimètres manquants? Ça aurait pu être Petro ou Agença, et notamment Petro qui a l'air motivé. Maïmi, il est volontaire, mais il fait pas de 14. Hein. Et donc, je pense que là, il y a un risque. Et c'est quand même mieux, à mon avis, de garder beaucoup de joueurs un peu sous la main au cas où il y a des blessures ou des situations inattendues. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu trop fait d'avance, cette présélection.
Mais il s'en cache pas d'ailleurs, Vincent Collet, il le dit, l'équipe qui ira à l'Euro est dans mon esprit. Donc déjà,
c'est
il
ça.
Le sait. Et ici,
bon,
dans ses déclarations, il dit Tony Parker y sera, Joachim Noah, Boris Diaw, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc
bon,
c'est son choix,
c'est lui le patron, mais on a le droit aussi de prendre nos responsabilités en disant que peut-être il y a des prises de risque un peu insensé là-dedans.
Un petit mot, oui, Armel, avant.
En tous les cas, il y a le retour, il faudrait peut-être le mentionner, de Michael Pietrus.
Oui, c'était un...
Depuis 2006, c'est-à-dire le championnat du monde au Japon, Michael Pietrus n'était pas en équipe de France.
Oui,
donc ça, c'est un vrai retour d'un joueur majeur, qui a été majeur, un joueur qui joue en NBA, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il joue en NBA. Il a fait une finale avec Orlando. Il était à Phoenix, comme il dit, dans le désert. Mais voilà, il joue en NBA. Il a un vrai temps de jeu. Il peut défendre. Il sait défendre. On lui a reproché, effectivement, au Japon, des tirs assez folkloriques à trois points. Et lui-même se plaignait, effectivement, de ne pas avoir de système pour lui. Il faut voir ce que va faire le coaching staff de l'équipe de France avec Mike Pietrus. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Je vois aussi qu'il ne s'est toujours pas fait opérer du poignet, alors qu'à un moment donné, encore cette saison, il disait « oui, j'ai mal au poignet et tout ». Donc, dans quel état d'esprit il va arriver? En tous les cas, visiblement, il a dû y avoir dialogue à un moment donné, puisqu'il a été convoqué dans le groupe France. Donc, il est là. Faut s'en réjouir, c'est un bon défenseur. Mais, oui, mentalement, est-ce qu'il... Oui, enfin, je présume s'il a dit oui sur cette liste et qu'il a envie de venir en équipe de France.
Et on espère, en tout cas, retrouver un Mike Pietrus, en tout cas, du niveau d'avant 2006 avec l'équipe de France, en tous les cas, surtout en plus que cette
niveau
saison...
Niveau NBA, voilà, comme il joue, niveau
défenseur.
Et
en tant que shooter aussi, parce que c'est toujours à ce niveau-là, au niveau des shooters sur les ailes, que nous avons une grosse faiblesse.
Des gros problèmes.
Des gros problèmes pour apporter, effectivement, un plus à un Mike Pietrus, en tout cas, vu sa saison NBA qui s'est pas forcément bien passé avec ce trade du côté de Phoenix où il a joué un petit peu aussi les seconds couteaux en étant sur le banc pendant le reste de la saison, enfin la deuxième partie de saison en tout cas. Mike Pietrus en équipe de France, peut-être la bonne note en tout cas. On suivra. Noter également dans cette liste la présence du petit jeune Fournier.
Hein,
Evan Fournier de Poitiers, qui était lui aussi l'une des sensations de cette liste.
RTL l'équipe, l'invité de la semaine de Carrément Basket.
Allez, on va continuer à parler de cette liste en bleu avec justement l'un des appelés par Vincent Collet. Il joue du côté de l'Espagne. Si je vous dis Nando, vous me dites
Valence.
Voilà, vous dites, ou De Colo, je pensais que vous alliez dire ça comme ça. Nando De Colo, qui est notre invité. Nando, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, tout va bien?
Ça va bien,
en forme. On va rappeler votre actu. Hein. Vous avez été, malheureusement, ça c'est la mauvaise nouvelle, été éliminé avec votre club de Valence, justement, comme le disait Armel, du championnat d'Espagne. Vous avez perdu en quart de finale de la Liga, battu par Bilbao. Mauvais souvenir cette saison, finalement.
Oui, surtout mauvais souvenir pour les playoffs. Je pense que l'équipe ne s'attendait pas à perdre là, mais... On est tombé face à une équipe qui était prête à jouer ses playoffs et on l'était pas forcément, donc voilà.
On se rappelle, hein, le classement, vous étiez troisième à l'issue de la saison régulière, Bilbao était sixième et ça n'a pas suffi, hein, la petite surprise en tout cas. Vous ne rejoindrez pas malheureusement Barcelone et le Real Madrid. Au-delà de ça, donc vous le disiez, la saison s'est quand même plutôt bien passée finalement, malgré cette élimination. Vous êtes satisfait, vous, en tout cas, d'un point de vue personnel? Cette deuxième saison, on le rappelle, hein, du côté de l'Espagne pour vous.
Oui, c'est ma deuxième saison. Et oui, je pense qu'on a quand même fait ce qu'on nous avait demandé en début d'année. Les objectifs ont été atteints. C'est vrai qu'on a mal commencé la saison, mais on s'est vite rattrapé avec l'arrivée d'un nouveau coach. Et derrière, ben, on a pu aller en quart de finale de l'Euroleague. Donc ça, c'était très important pour le club et pour l'équipe. Et voilà, on a pu faire la Coupe du Roi. On s'est classé troisième dans le championnat, donc c'était vraiment très bien. Et donc voilà, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est bête de finir ainsi, mais c'est comme ça.
Votre avenir, vous le voyez toujours en Espagne pour la saison prochaine ?
Oui, j'ai encore un an de contrat avec Valence, donc voilà, je suis toujours là pour le moment.
Valence, pour l'instant, donc, qui a été éliminé, on le rappelle, c'était ce week-end dans le championnat espagnol. On parlait de l'équipe de France, Nando, il y a quelques instants. Vous avez été appelé par Vincent Collet pour disputer, enfin pas encore en tout cas, mais présélectionné pour disputer l'Euro. Voilà, c'est un gros challenge pour vous en tout cas en cette fin de saison, justement puisque vous avez été éliminé avec votre club. L'objectif, c'est pas terminé votre saison, vous êtes un petit peu en vacances là, mais il y a l'Euro qui se profile.
Oui, voilà, c'est ça. Pour le moment, c'est d'abord de récupérer de la saison, prendre un peu de recul niveau basket, mais après une saison, tout le monde attend l'été avec l'équipe nationale. Donc voilà, on sera prêt au moment venu.
Est-ce que vous avez pas un petit... Alors, je vais prendre un petit peu le côté néfaste de la chose. Il y a beaucoup de joueurs NBA qui arrivent, donc ça fait forcément un peu plus de concurrence. Ça vous dérange pas trop?
Non, pas forcément. Non, au contraire, c'est bien que tous les joueurs soient là. Comme ça, on va voir de quoi on est vraiment capable. Maintenant, la concurrence, j'en ai eu aussi cette année avec Valence. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai à faire et jouer mon jeu.
Armel Lebescon.
Bonjour Nando.
Bonjour.
Dans quel domaine tu penses avoir le plus progressé cette saison ?
Je pense que ce qui m'a beaucoup apporté cette saison, c'est comparé à la saison dernière, j'ai eu moins de temps de jeu. Donc derrière, ça m'a permis de faire plus de choses dans un temps de jeu réduit. Donc je pense que ça aussi, c'est un détail important pour cet été. Et après, je pense que j'ai aussi développé mon jeu défensif, donc c'est bien pour moi.
Georges ?
Oui, récemment, Nando a été élu parmi les meilleurs arrières de tout le championnat. Et on sait que le championnat d'Espagne est le plus fort de l'Europe. Donc, c'est un standing et peut-être des nouvelles responsabilités pour l'avenir, Nando.
Oui, bah c'est très bien. Si j'ai des nouvelles responsabilités, tant mieux pour moi. C'est ce que j'attends. Donc, voilà.
Et justement, à quel poste ? Parce que vous pouvez jouer meneur, vous pouvez jouer arrière. On sait qu'en équipe de France, meneur, ça risque d'être compliqué en tout cas. Et votre avenir, il se situe au poste d'arrière, définitivement, parce qu'on ne sait pas trop.
Je pense qu'en club, je suis plus situé sur le poste de jeune meneur, où je peux être sur quelques séquences en tant que deuxième arrière. Après, en équipe de France, comme j'ai toujours dit, ça se joue sur 2 mois. Donc voilà, il faut que chacun... se mettre dans la tête que c'est pas comme en club et que les positions sont pas forcément les mêmes. Donc moi je vais être là en tant que meneur deuxième arrière et après on verra comment ça se passe.
L'équipe de France donc qui disputera l'Euro en Lituanie, ce sera fin août début septembre on espère, avec Nando De Colo dans l'équipe. Nando, une petite question concernant la NBA, on en a parlé pas mal nous dans notre première demi-heure de l'émission, on va le rappeler, ça aussi c'est un facteur important, vous avez été drafté par les Spurs, c'était en juin 2009, c'est toujours dans un coin de votre tête la NBA ou pas du tout?
Oui, bien sûr, c'est toujours un objectif, surtout après la draft. Pour le moment, je suis en Europe, donc je fais mon travail ici, je continue de travailler dur, et après on verra comment ça se passe.
Parcours un peu comme Ginobili ou Parker, qui sont restés assez longtemps en Europe avant de tenter l'aventure, et comme ça, il est sûr d'être mûr pour y réussir.
Avec un besoin de rajeunissement du côté de San Antonio, ça peut peut-être faire les affaires de Nando, non ? Pourquoi pas ? Justement, parce que l'effectif est un petit peu en transition du côté du Texas, Nando.
Oui, pourquoi pas. C'est vrai que je suis l'équipe. C'est vrai qu'ils ont des joueurs qui arrivent en fin de carrière, donc l'équipe va changer. Maintenant, on verra comment ça se passe. Pour le moment, on est là. On va se concentrer sur l'équipe de France qui arrive la saison prochaine. Et après, on verra bien comment ça se passe.
Il y a une équipe qui vous fait envie, mis à part San Antonio, du côté du championnat nord-américain ?
Une équipe envie, ouais. Je sais pas, il y a des équipes qui jouent mieux que d'autres. J'aime beaucoup Dallas pendant les playoffs. Il y a des équipes qui montrent qu'ils ont un jeu à l'européenne, donc ça peut être très bien pour moi. Maintenant, je suis content d'être d'être du côté de San Antonio pour le moment.
Allez, on espère en tout cas que vous rejoindrez prochainement, peut-être pas pour la saison d'après, mais celle d'après, il y a des places à prendre, c'est sûr, dans les semaines qui vont venir.
Et des sous
aussi. Et avant ça, on vous souhaite évidemment beaucoup de succès avec l'équipe de France. Hein. On espère que vous ferez partie de cette liste de Vincent Collet, on n'en doute pas. Hein. Allez, vous y serez du côté de la Lituanie et on est sûr aussi que vous allez nous ramener une petite médaille, voire plus. On compte sur vous, Nando.
La concurrence est sévère à tous les niveaux. Hein. Ouais. Déjà pour faire partie de l'équipe de France et ensuite pour faire partie des équipes qualifiables pour les Jeux.
Ouais. Ça va être compliqué.
Enfin, Nando De Colo, s'il n'est pas en équipe de France, ce serait vraiment dommage, alors qu'on cherche des joueurs qui sont à un bon niveau européen. Et Nando De Colo, justement, il a eu le courage de partir en Espagne sur une ligue difficile et dans un bon club.
Et de
s'imposer, donc c'est bien.
Merci Nando, en tout cas, d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Et puis, on le rappelle, on suit votre actualité qui passera forcément par l'équipe de France. À bientôt, Nando.
D'accord, merci, au revoir, à bientôt.
Voilà, messieurs, c'est l'heure déjà de clôturer ce Carrément Basket, une heure d'émission qui est allée.
Ça passe vite avec le tennis. Hein.
Ça passe vite. C'est vrai que le tennis nous a un petit peu, de temps en temps, était là pour nous donner un petit peu plus de couleurs. Et on s'en réjouit d'ailleurs d'avoir ce Roland Garros à suivre constamment sur l'antenne d'RTL Équipe dans 6 à les 15 secondes. On va retrouver Clément Grèze pour une heure de direct non-stop avec la fin de match notamment du français Texera face à Federer. Il est midi et demi, messieurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être pas, Georges, si vous partez.
Non, je serai à la finale et Armel aussi, je crois.
Ah bon. On part. Bye bye.
Allez, bye bye.
Mais on revient.
Il n'y aura plus personne la semaine prochaine pour Carrément.
On vous appellera.
Allez, on aura d'autres invités au rendez-vous, forcément. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.